Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'été brûlant. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Durant toute la nuit, Cyril délire, transpire, vomit, il a les yeux livides. Au petit matin, Sylvain s'est endormi sur le parquet, au pied du lit, épuisé. Il se réveille, épuisé, courbaturé. Mal à la tête. Il est 11h. Se lève et voit Cyril toujours le regard vague, transpirant. Prend sur la table de nuit le flacon d'eau de Cologne et le gant. Il mouille le gant et le lui passe sur le visage. Ça va, Cyril?
J'ai froid.
Ce n'est rien, c'est nerveux. Tu as mal quelque part?
Au bas, au bras, à la tête, au ventre.
Le bras, c'est la piqûre. Le reste, c'est la drogue. Il faut attendre que ça passe. Il touche les mains, elles sont glacées. Pourquoi tu fais ça, Cyril?
Je voulais l'oublier.
Tu vois? Et tu ne l'as pas oublié? On te demande pas de l'oublier, mais on te demande de continuer à vivre et d'être heureux.
Tu es gentil.
Non, ne crois pas ça. Repose-toi maintenant.
Tu veux boire?
Non. Je vais faire du café et je reviens. La journée se passe en grande amélioration, mais Cyril est lucide et voit son cousin s'occuper de lui. Il en est reconnaissant, le lave, l'aide à aller au WC, lui donne à boire. La nuit, Sylvain a pu dormir. Et le lendemain matin, Cyril est mieux, il a voulu se lever. Sylvain le soutient jusqu'à la cuisine.
où il a pu manger. Des fruits et du poisson.
Je me sens mieux. Je te remercie, Sylvain.
Ce n'est rien. Comme il se sent faible, il s'est recouché. Sylvain le déshabille. Se déshabille aussi. Car il est fatigué et veut dormir. Et il se couche à terre. Mais Cyril lui dit,
non, tu vas être mal. Couche-toi avec moi. Le lit est suffisamment grand pour deux.
Sylvain, surpris et gêné, il n'ose pas refuser. Cyril risquerait de se poser des questions et de lui en poser. Que répondre pour refuser une chose qui est normale pour les autres? Oui, bien sûr, il pourrait dire qu'il a peur de le gêner, mais Cyril dirait de suite non. Alors il se couche à côté de son cousin. Fait attention d'être le plus éloigné possible de lui et n'ose pas bouger. Il sent malgré tout son corps.
Je te remercie, Sylvain. Tu es vraiment chic, un chic type.
Ce n'est rien. N'importe qui aurait fait la même chose.
Dors bien, dit Cyril.
Toi aussi. Sylvain se tourne de l'autre côté. Il entend la respiration de ce cousin, la chaleur de son corps. Il n'ose pas bouger. Il est tellement gêné qu'il n'a pas de désir. Le sommeil l'a tout de même pris, mais il est plein de rêves où il prend et reprend dans ses bras Cyril. Il bouge beaucoup et se rapproche de lui. Cyril soupire dans son sommeil. Il est gêné par les mouvements de Sylvain. Le matin, Sylvain se réveille, le visage plaqué sur celui de Cyril, les lèvres presque contre les siennes. Il sent son haleine, de ses mains la prise à l'épaule. Il se retire avant qu'il ne se réveille. Un quart d'heure plus tard, Cyril se réveille, voit Sylvain à ses côtés.
« Salut, bien dormi ?»
Sylvain lui répond timidement.
« Oui,
il n'ose pas lui dire « Et toi ?» Les jours passent. Petit à petit, la vie reprend son cours. Ils retournent se baigner, font les courses ensemble. Cyril a voulu reprendre sa place pour dormir. Sylvain n'a pas voulu.
Non, tu peux rester dans mon lit.
Et ils continuent à dormir ensemble. Petit à petit, Sylvain s'était habitué à la voir dans son lit, mais en s'habituant, le désir est venu. Tard dans la nuit, il est obligé de se lever pour s'enfermer dans les WC. Sylvain se demande comment il fait pour se soulager, vu qu'il ne l'a jamais surpris et qu'il reste pas longtemps au WC. Peut-être dans la salle de bain, il voit bien que le matin, en se levant, il bande. Un après-midi qu'il fait de l'orage, ils sont tous deux assis sur le plancher à lire des BD tout en mangeant du chocolat. Cyril pose sa BD à terre. Et dit, tu sais, c'était vraiment sérieux. Je l'aimais vraiment. On voulait vivre ensemble, mais avant d'avoir un enfant. C'est dur de ne plus la revoir. Sylvain pose sa BD. Et le regarde. Tu l'aimes encore? Oui, je l'aime encore. On s'est connus au lycée. C'était une fille vraiment bien. Puis elle a changé à cause d'autres filles avec qui elle sortait. Et puis aussi sa famille. Elle voulait lui présenter un autre mec et m'éloigner. Mais elle le voulait. Elle voulait qu'on soit toujours ensemble. Puis elle a changé petit à petit. Tu sais, c'est dur. Mais heureusement, j'ai un ami comme toi. Je ne croyais pas. Je ne te croyais pas aussi chevaleresque et charitable. Tu as vraiment des gestes chevaleresques pour moi. J'ai déjà fait d'extraordinaires, Cyril. Sylvain se sent honteux. Que son cousin pense de lui. Il se dit qu'il ne le mérite pas. S'il savait ce que j'ai dans mon cœur, il pensait autrement. Il penserait autrement. Et la vie continue. Un après-midi, ils entendent du bruit, des cris dans l'allée. Sylvain va ouvrir la porte. Cyril l'a suivi. Les locataires sont sur le palier. Ils voient descendre des escaliers deux policiers en civil qui escortent une fille. Les cheveux longs, noirs, taille moyenne, mince. Derrière eux se trouvent deux inspecteurs. Jean, la voyant, pousse des cris. Salope! Salope! Sylvain demande à son voisin de palier, M. Pierre Max, un petit homme tout maigre avec la tête osseuse, les cheveux gris. Il porte un pyjama bleu et des charentaises. Que se passe-t-il, Pierre Max?
Ah, tu es là. Tu n'es pas parti en vacances? Moi, je suis revenu de Sainte-Agathe en Danzy. La fête s'est bien passée. Plus de 800 personnes, tu te rends compte?
Il tape la main et lui dit,
je suis bien content de te revoir, tu sais, mon petit Sylvain.
Moi aussi, Pierre Max. Alors, que se passe-t-il?
Une histoire pas possible. J'ai posé la question à mon copain l'inspecteur. C'est la fille du cinquième. Elle a tenté d'assassiner ses parents. Tu te rends compte, la jeunesse, maintenant?
Et on sait pourquoi elle a fait ça?
Non! Elle leur a donné du somnifère et ouvert le gaz. Mais le père a senti l'odeur tout de suite et a arrêté le gaz. Il n'avait pas bu la tisane, lui. Lorsqu'il a vu sa femme et son fils malades, il a appelé les pompiers qui lui ont dit qu'il y avait eu tentative d'assassinat. Enfin, il y a eu une enquête et on a trouvé que c'était la fille.
Et on ne sait pas pourquoi elle a fait cela.
Non!
Bon, eh bien, merci Pierre Max, je rentre.
Tu viendras me voir, hein?
Oui, bien sûr.
Qui est ce jeune homme qui est à côté de toi?
C'est mon cousin, il faut le laisser tranquille, il est fatigué. Allez, à bientôt. Et il rentre chez eux.
Sylvain dit, je ne comprends pas, je la connais un peu, cette fille. Elle est gentille, sage, pas d'histoire, rien.
Un instant de folie, peut-être.
Le lendemain matin, Sylvain a acheté le journal pour voir s'il ne parlait pas de la jeune fille. Il
le lit à la cuisine, assis à table. Cyril fait la vaisselle.
Ah, voilà, ils en parlent.
Elle a voulu tuer sa famille par amour. Elle voulait vivre avec un ami et ses parents ne voulaient pas. Et comme elle n'avait pas suffisamment d'argent pour vivre avec lui, elle avait machiné tout ça pour hériter. Cyril lui dit.
Tu vois, moi, j'étais capable pour elle du même geste. L'amour, c'est toutes les folies, passion, rien n'existe. On est prêt à tout.
Cette histoire a beaucoup frappé Cyril. Sylvain s'en aperçoit. Petit à petit, il devient dépressif, irritable, nerveux. Il lui arrive même de parler mal. Cyril est assis à terre dans le salon, Sylvain debout.
Tu viens, Cyril, faire un tour? On pourrait aller jusqu'à au-dessus de Grenoble?
Non, je n'en ai pas envie.
Que veux-tu faire alors?
Rien! Fous-moi la paix!
Sylvain a la gorge serrée. Il a beau se dire qu'il ne lui en veut pas, cela lui fait mal.
Vas-y tout seul si tu veux.
Non, si tu ne veux pas y aller, moi non plus. Et il s'assoit à ses côtés.
Cyril soupire.
Tu ne vas pas m'imiter, non? Cela m'agace.
Va-t'en, je te dis.
Je suis suffisamment grand pour rester seul.
Sylvain ne bouge pas.
Fous-moi le camp! Allez, va, fous le camp!
Il se lève furieux. Soulève Sylvain et le pousse vers la sortie.
Va-t'en, il va faire ton tour.
Et il le jette sur le palier.
Sylvain soupire. C'est que ça ne sert à rien de s'opposer. Il décide de le laisser seul l'après-midi.
Lorsqu'il rentre, Cyril a mis la table et fait le repas. Sylvain est heureux. Il se met à table.
Merci. Ne te réjouis pas trop. Je ne sais pas faire la cuisine. Et puis, j'ai pas envie de parler.
Puis, Cyril est de plus en plus morose. Sylvain a même des difficultés à le faire manger.
Il n'a jamais faim. Et lorsque Sylvain le sert,
il entre dans des colères pas possibles. Et même une fois, il a jeté l'assiette à terre. Sylvain a les larmes aux yeux. Lui aussi devient dépressif. Il mange de moins en moins, a envie de rien, maigrit. Il souffre de voir son cousin dans cet état et surtout que son amitié ne lui ait d'aucun secours. Mais que faire? C'est ce qui se pose constamment. Ils passent leur journée assis à terre, l'un à côté de l'autre. Cyril de temps en temps le regarde avec un air de dédain et hausse ses épaules. Ils ne se parlent presque plus. Quelquefois, Sylvain a l'impression que leur dépression, qui les rend silencieux, les idoles du monde, est en quelque sorte, dans leur solitude individuelle, les unit. Alors, en pensant à cela, Sylvain est heureux.
ne fait plus de repas, à quoi bon? Sylvain achète des fruits, gâteaux et chocolat. Comme cela, s'ils ont envie de grignoter dans la journée, ils le peuvent. L'appartement se dégrade, on ne fait plus le ménage ni le lit. Les volets sont ouverts que lorsqu'on y pense. Une chaleur moite. Ils sont souvent en sueur malgré qu'ils ne fassent rien. Quelquefois, ils prennent une douche. Sylvain se dit que s'il n'a pas pu faire en sorte que son ami l'aime, faire partager son amour, il partage sa dépression. C'est aussi de l'amour que de partager la souffrance. Malgré leur léthargie, il arrive que Cyril s'irrite et pique une colère pour un rien, la chaleur, lorsqu'il veut que Sylvain veut le faire manger. Sylvain a de plus en plus de la peine à le supporter. Il est faible lui aussi. Cela le rend malade. Il pleure, vomit. Cyril le voit, hausse ses épaules, puis, au bout d'un moment, demande pardon. Les jours passent. Comme les parents risquent de rentrer, Sylvain fait les courses pour remplir le réfrigérateur et, lorsqu'il a du courage, nettoie un peu. Mais la guerre la force. Et puis, tout ce linge sale qui s'est accumulé. Il soupire et se dit, il y a au moins une chose de positif, c'est que l'on n'a presque rien dépensé. Ses parents lui avaient laissé une bonne somme, croyant qu'il allait sortir un peu et même faire un petit voyage. Il savait qu'il n'allait pas travailler tout le temps. Sylvain se dit, je n'aurais jamais pensé que je passerais un été pareil, brûlant, moite, la tête en feu, entre quatre murs avec Cyril, un Cyril à plat. Quelquefois, il essaye de remettre Cyril à la réalité. Les vacances se terminent, il faut qu'il reprenne le cours de la vie. Que fais-tu à la rentrée? Cyril ne répond pas. Tu rentres à l'université? Cyril hausse les épaules. C'est loin de tout ça. L'université, un autre monde. Il faut bien que tu fasses quelque chose. Pourquoi faire? Pour toi, ton avenir, ta famille. Pas tant que tu es la société. Non, pour toi. Je n'ai besoin de rien. Pour le moment, mais plus tard. Cyril hausse ses épaules, se lève et se prépare à sortir du salon. Sylvain lui crie. Tu as tout de même pas gâché ta vie comme ça. Cyril lui dit. Sans se retourner. « Et toi, tu ne la gâches pas en restant auprès de moi ?» Et il sort de la pièce. Il fait de plus en plus lourd et l'été semble ne jamais finir. Sylvain et Cyril se promènent dans l'appartement en slip. Leurs pieds nus laissent des marques sur le sol. Sylvain voit sa nuque, ses cheveux, le dos luisant de son cousin, ses hanches droites, son slip blanc qui moule et colle à ses fesses, des fesses fermes et bien faites. Cela le met en feu. Il aimerait se plaquer contre lui, mais il aimerait surtout se le consoler, le guérir de son mal. Il se demande comment son amour si fort
encore ne peut-il pas faire ce miracle? Quelquefois, il se dit qu'il ne l'aime pas assez, car s'il aimait vraiment aussi fortement qu'il le croit, il pourrait faire quelque chose. Mais il se dit, mon amour est maudite parce qu'interdite. Elle doit toujours rester cachée. Amour qui symbolise pour les autres, et peut-être même pour Cyril, le dégoût, le déshonneur, le sida, vengeur, la folie et la haine. Sylvain, pour se distraire, lit les enfants terribles de Cocteau. Il sent une certaine similitude à ce qu'il vit. L'appartement est devenu le lieu clos de la chambre du roman. L'amour du héros, un peu le sien, mais dans les livres, c'est plus beau que dans la vie. On est capable de même de mourir d'amour. Il ne le peut pas, ne doit pas, par devoir, la charge de celui qu'il aime. S'il se tuait, qui empêcherait Cyril de se tuer ou de se laisser mourir? Quelquefois, lui aussi a envie de mourir. Il se dit, à quoi bon vivre? Ma vie est perdue d'avance. J'aime ce qui ne peut être aimé. Si au moins Cyril pouvait m'aimer, nous pourrions nous aimer en cachette, mêlés comme les autres. Mon Dieu, que faire? Un jour, Sylvain entre dans la salle de bain. Il voit Cyril qui fouille dans l'armoire à pharmacie et prend un tube de comprimé. Que fais-tu? Il fonce sur lui. Il lui met à la main qui a le tube. Avec l'autre main, il essaye de lui faire lâcher. Mais Cyril résiste. Laisse-moi tranquille. Ça ne te regarde pas. Sylvain le force à lâcher le tube qui tombe dans le lavabo. Cyril fait le geste d'en prendre un autre dans la pharmacie. Sylvain le retient à la taille et le tient. Cyril tend la main. Sylvain la lui retire. Et d'un geste fait tomber les médicaments qui roulent à terre et dans le lavabo. Cyril résiste. Sylvain le tire et le fait tomber à terre. Ils se battent. Sylvain a le dessus. Cyril lui dit, lâche-moi tranquille, ça ne te regarde pas. Et il pleure, Sylvain le lâche. Cyril se lève et sort en courant de la salle de bain. Il va au salon, Sylvain le suit. Il le retrouve debout, le dos au mur, l'air furieux. De quel droit m'as-tu empêché de faire ce que je voulais? Ça ne regarde que moi. De ses épaules, tu comprendras jamais rien. Tu n'as jamais souffert d'amour. Petit morveux, tu en es incapable. Sylvain se sent triste et a envie de pleurer. De quel droit se permet-il de dire qu'il n'a jamais souffert d'amour? Il lui dit les larmes aux yeux. Si j'aime, et je souffre aussi. Il est tout honteux de dire qu'il aime à la personne qu'il aime. Cyril hausse les épaules. Je ne te crois pas. Il n'y a qu'à te voir. C'est tout juste si on ne croit pas que tu joues encore aux billes, petit pousseau. Sylvain souffre en silence. Après un silence pesant, Sylvain s'assoit à terre. Alors que Cyril est resté debout, le dos au mur.
Si tu aimais vraiment, tu serais capable de mourir, de te sacrifier. Mais non, tu en es incapable, mauviette, sans corps.
Ne dis pas ça. Cyril hausse ses épaules. Cela lui fait du bien de le faire souffrir.
Pauvre cloche, égoïste. Tu ne peux aimer comme moi j'aime. Oui, j'aime vraiment. Comme tu ne pourras jamais aimer.
Sylvain a les larmes aux yeux et dit
« C'est faux. Si tu aimes et qu'elle te dise de te tuer, mais c'est impossible. Tu dois la dégoûter. Qui peux-tu aimer sans cervelle, mollusque? Sais-tu ce que c'est que l'amour ?»
Sylvain fait oui de la tête.
« Qui aimes-tu ? Que je la voie te cracher à la figure. Elle doit te détester quand tu lui dis que tu l'aimes. »
Sylvain pleure et dit
« C'est toi. » Et il court, sort de la pièce.
Cyril l'a suivi. Sylvain sort de l'appartement.
En descendant les escaliers, il entend Cyril qui lui crie « Tu peux crever, je n'en voudrais jamais !»
Une fois sorti de l'immeuble, il a pris sa voiture et foncé, foncé. Les rues sont désertes, il est 2 heures du matin. Il file en dehors de la ville. Il va de plus en plus vite. La tête en feu, les larmes aux yeux. Il ne sait pas où il va. Il roule, il roule, il roule. Il roule.
Il entend. Tu peux crever, crever. Crever.
Il roule au maximum de la voiture.
Petit matin, il s'est arrêté. Plaqué la tête sur le volant, il pleure, pleure, pleure.
Il a fait demi-tour.
il revient, il retrouve Cyril et lui crie « Tu avais raison, je suis un lâche. Personne ne peut m'aimer. » Cyril accourt. Il le prend dans ses bras. « Pardon, pardon. Tu es le seul être qui mérite que l'on aime. Je t'aime. Pardon. » Il l'embrasse sur le visage de partout. Ils ont les larmes aux yeux. « Pardon. Je ne savais plus ce que je disais. J'étais fou. » Il le conduit dans la chambre, enlacé. Il l'embrasse, le fait tomber à terre. L'embrasse. J'ai eu si peur. Lorsque tu es parti, j'ai compris ton amour. Des heures passées à t'attendre m'ont aidé à la comprendre. Sylvain est heureux, il ne dit rien, laisse faire. C'est si bon après ce cauchemar. Cyril l'embrasse et lui dit « Je vais te faire un cadeau, un seul et pour toute la vie, car je ne peux pas plus. Je le fais parce que tu es la seule personne digne que l'on aime. C'est toi que je devrais aimer et que je vais aimer. Je vais t'aimer une nuit. À toi, je serai à toi. Et j'aimerai sincèrement. Je te jure que personne ne prendra ta place dans mon corps et que je serai jamais avec une autre personne comme je l'ai été avec toi. Nous allons nous aimer et ce sera pour la vie. Viens. » Il se lève en silence. Se déshabille. Et s'allonge l'un à côté de l'autre. La pièce est bénie de soleil. Cyril se penche vers lui et lui dit: malgré que notre amour doit rester secrète, nous le ferons en pleine lumière. Et sans dégoût, il l'embrasse. S'il verle un sein contre lui, il sent son odeur, il a ses lèvres, sa salive, sa langue. Il lui touche les cheveux. Sylvain bande, soulève les jambes et les serre contre celles de Cyril. Cyril le baise du haut en bas, puis touche les poils du bas qu'il trouve doux, les couilles, et par instant lui met le sexe dans sa bouche. Sylvain serre les jambes de plaisir. Une fois qu'il a joui, qu'ils ont joui, ils se sont endormis, enlacés. Ils sont restés toute la matinée ensemble dans la chambre. Puis, il a fallu se lever. Cyril lui a pris la main et lui a dit: n'oublie pas. Pour la vie, dans mon corps seulement, dans mon corps, mais pour la vie. Ils se sentent bien tous deux. Après avoir pris leur petit déjeuner, Cyril lui dit « Je dois partir, mes parents m'attendent ce soir à Paris. » Sans rien se dire,
Ils ont préparé la valise. Sylvain est triste, mais ne le montre pas pour ne pas décevoir son ami. À la gare, avant qu'il ne monte dans le wagon, Cyril le prend dans ses bras, l'embrasse sur la joue et lui dit « N'oublie pas, pour la vie, dans nos corps seulement, dans nos corps !» Et il entre dans le compartiment et fait un signe. Le train part, Sylvain le regarde partir. Radio Canet vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Été brûlant, dont c'était la deuxième partie. Production.
mise en scène.